Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Bonjour. Bientôt bonjour. Nous arrivons à la fin de la nuit, peut-être avec une promesse de l'aube. Vous le savez peut-être que dans la Bible, les jours se comptent de la nuit au jour et pas du jour à la nuit, ou plus exactement de l'esclavage à la liberté et pas de la liberté à l'esclavage. Oui, la nuit porte du coup une promesse parce qu'on sait que le matin se lève et le jour vient. Mais vous avez peut-être aussi entendu autre chose déjà en résonnant avec la promesse. Cette phrase, il me l'a pourtant promis. Ou encore, ce n'est qu'une promesse. Ou encore, ah, que de promesses électorales. Mais aussi, je te promets. La promesse peut être une simple promesse et résonne alors la possibilité de la déception, de la désillusion peut-être. Il me l'a pourtant promis. Mais la promesse peut aussi se transformer en une véritable fondation, un fondement, un sol ferme quand elle est tenue, quand elle est ferme, quand on perçoit que toute une vie peut s'établir sur une promesse. Et alors un horizon s'ouvre, une attente est possible, une espérance naît. Alors comment cela se fait-il que promesse résonne tantôt avec bonheur et perspective, tantôt avec incrédulité, hésitation, voire déception? Au fait, qu'est-ce que c'est au juste une promesse? En français, la promesse vient du verbe latin promittere, faire aller en avant, assurer, prédire, lui-même composé de pro, en avant, devant, et mettere, envoyer, laisser aller. Étrange, non? Envoyer devant. On envoie sa parole en avant, on se projette en avant, et parfois on se casse la figure en projetant ainsi sa parole en avant. Le français s'avère être, dans le mot utilisé pour dire la chose, finalement assez loin de la promesse biblique. Pourquoi ? Eh bien, quand on cherche dans l'Ancien Testament le mot « promesse », on découvre qu'il n'existe pas. En tout cas, pas tel quel. Pas de promesse, donc, dans l'Ancien Testament? Eh bien, c'est juste le contraire. Les textes de l'Ancien Testament n'arrêtent pas avec des promesses. La libération, un pays, un sauveur, mais aussi une présence, du bonheur, de la vie, tout cela en promesse, de la guérison, de l'alliance, la fin de toute guerre. Alors qu'en est-il? Quel mot l'hébreu utilise pour dire promesse, promettre? L'hébreu, comme souvent, nous surprend par son absence d'abstraction. L'hébreu n'a pas la tête en l'air, si on peut dire, et ne semble pas permettre des promesses en l'air. À la recherche du mot utilisé, je trouve davar, ou plus rarement, Homer. Les deux mots signifient simplement « parole ». Une promesse, c'est une parole. Une parole dite, une parole écoutée. Beaucoup de choses se jouent alors du côté du receveur, vous voyez. Et oui, il faut écouter. Sinon, on peut passer à côté d'une promesse. Chemin, écoute. Et vous le sentez peut-être d'emblée, la fragilité est abordée. La promesse n'a rien d'autre à faire valoir que d'être une parole. Elle n'est même pas écrite. Elle est juste dite. Et si mes oreilles et mon cœur, car dans la Bible, on entend autant avec son cœur qu'avec ses oreilles, ou plus exactement, on a une anatomie toute bizarre qui lie le cœur aux oreilles. Eh bien, si mes oreilles ne sont pas réceptives, ouvertes, alors je peux passer facilement à côté. Dieu m'offre sa parole, et sa parole, ce n'est pas un texte, même si elle peut surgir d'un texte. Il m'offre sa parole et elle s'évanouit si je ne la reçois pas. Et c'est peut-être pour prévenir ce risque qu'il y a un texte. Non pour figer une parole, mais pour que la parole puisse avoir à nouveau une sorte de tremplin. Le texte comme un tremplin pour une parole, mais à ne pas confondre. Mais vous voyez, la fragilité est aussi du côté de l'émetteur. Car qu'est-ce qui me dit que je peux m'appuyer sur une simple parole? Si l'autre me dit « Je suis avec toi », si Dieu me dit « Je suis avec toi », « Je serai avec toi », qu'est-ce qui me prouve qu'il est avec moi? Eh bien, rien. La fragilité d'une parole demande en face la fragilité d'une confiance accordée. Non pas d'une confiance aveugle, non, d'une confiance qui s'appuie sur, oui, sur quoi puis-je m'appuyer quand quelqu'un m'offre sa parole ? Dieu y compris. Qu'est-ce qui fait que je peux dire « Je te crois » ? Qu'est-ce qui fait que je peux dire « Je te fais confiance » ? Car c'est ce qu'une promesse, c'est ce qu'une parole attend. Que l'autre en face dise « Je te crois ». Je te reçois, je reçois cette promesse, j'y fais confiance. Alors je cherche la réponse du côté du Nouveau Testament, même si on peut trouver aussi la réponse dans l'Ancien. Et là je tombe sur un écrit qui est central pour cette histoire de promesse et du pourquoi d'une possible confiance accordée à une promesse. C'est la lettre aux Hébreux. À plusieurs reprises, je lis « On peut faire confiance, car celui qui fait la promesse est fidèle. » On peut faire confiance, car celui qui donne la promesse et digne de confiance. Et c'est un verset qui est tout particulièrement parlant, notamment en grec. Je vous le lis. C'est par la foi, pistis, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle estima fidèle, pistos, celui qui avait fait la promesse. Vous avez entendu? C'est par la foi, pistis, que Sarah fait confiance parce qu'elle estime fidèle pistos, celui qui a fait la promesse. La fiabilité, si on peut dire, de Dieu rend la foi de Sarah possible. C'est comme si on était dans un ping-pong de foi et de fidélité qui ouvre l'horizon. Autrement dit, une confiance en l'autre devient possible car l'autre est perçu comme digne de confiance. Dès que la confiance s'arrête, le sol sous la promesse se dérobe. Plus rien ne la retient alors. Elle s'évanouit. Par contre, un horizon de promesse s'ouvre quand la confiance est accordée réciproquement. Une espérance est possible quand la confiance est accordée réciproquement. C'est un saut dans l'inconnu. Et il faut du courage pour faire ce saut. Car dire que Dieu est fidèle et digne de confiance est encore une parole qui ne peut se prouver que dans la mesure que j'ose m'y aventurer. Non pour le prouver, mais pour l'éprouver avec confiance. Et c'est donc l'expérience qui est convoquée. Je ne peux pas savoir à l'avance si la parole donnée s'avère fiable, même avec une poignée de main qui signe parfois la promesse de vente. Je peux faire confiance au moment où la parole s'avère fiable. Ou plus exactement, la personne qui m'offre sa parole s'avère pour toutes sortes de raisons pas fiable et donc du coup, le saut dans l'inconnu devient périlleux. Mais je ne peux pas le savoir à l'avance et me protéger quelque peu d'une déception. Alors j'ai le choix. Pour ne plus être déçu de promesses pas tenues, pour ne plus être déçu jamais, je peux ne plus oser le saut de confiance. Et donc, ne plus faire confiance à aucune parole. À aucune parole qui n'est pas d'emblée un engagement signé en bonne et due forme, une sorte d'assurance qui me donne le droit de réclamer des dédommagements si jamais l'engagement n'est pas tenu. Je peux ne plus faire confiance. Mais je peux aussi m'appuyer sur une parole offerte d'une confiance que j'accorde par avance, sans savoir si ma confiance sera honorée ou déçue. J'accepte alors le saut dans l'inconnu. Mais en offrant ainsi ma confiance, la parole promesse qui m'est faite gagne en importance. Elle se construit sur la confiance que je lui accorde. Et si la parole promesse de Dieu comme de l'autre humain se transformait justement avec la confiance que je lui fais. Une parole promesse est et sera à expérimenter, sans se voiler la face, mais aussi sans réclamer à l'avance une absence de risque pour s'y lancer. C'est de parole promesse qu'est tricotée notre vie en profondeur, en vérité, et alors peut-être que le saut dans l'inconnu vaut le coup d'être osé. Je vous remercie.